Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. Bonsoir à tous, voici les titres. En République démocratique du Congo, la CENI envisage un report de la publication des résultats provisoires des élections. Au Sénégal, la Cour suprême rejette le pourvoi en cassation de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Plus de 2000 personnes ont perdu la vie en traversant la Méditerranée en 2018, une baisse par rapport à 2017 selon le HCR. Ici aux États-Unis, le nouveau Congrès américain fait sa rentrée sur fond de tensions et de fermeture partielle de certaines agences fédérales. Ne manquez pas l'actualité économique, les prix mondiaux du cacao ont progressé de plus de 25% en 2018 et la page sportive, ce sera juste après le journal. Se dirige-t-on vers un report de la date de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo ? La question alimente les discussions à Kinshasa. En principe, la CENI doit communiquer les résultats provisoires de la présidentielle dimanche prochain. Mais à 3 jours de cette date, Corneille Nanga, le président de la CENI, annonce que seul 20% du travail a été fait. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Commission électorale nationale indépendante annoncera les résultats conformément à la loi et selon ce qui va être collecté par ses équipes sur terrain. C'est la mise au point de son président Corneille Nanga qui a mis en garde les personnes et organisations qui essayent d'influencer le travail de la CENI. Concernant les chiffres, Corneille Nanga souligne que seuls les résultats des 15 468 bureaux de vote sur les 75 000 ouverts le jour du vote ont été traités dans les centres locaux de compilation, soit 20% seulement des résultats collectés, alors que les résultats provisoires de la présidentielle doivent être publiés ce dimanche 6 janvier 2019. « Nous travaillons d'arrache-pied pour atteindre notre objectif », a-t-il rassuré à la question de savoir s'ils respecteront le délai que leur impose le calendrier. Tout en mettant en garde, comme Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, quelques heures avant lui, les médias et les observateurs qui publient déjà des résultats, Corneille Nanga rappelle que seule la CENI en a la prérogative, conformément à la loi électorale. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La CENCO, la conférence épiscopale, affirme que selon les résultats en sa possession, il y a un clair vainqueur de la présidentielle, sans prononcer son nom. Donatien Ntshole, secrétaire général de la CENCO, appelle la CENI à publier des résultats reflétant la vérité des urnes. Toujours en République démocratique du Congo, 2 opposants ont été libérés à Kinshasa en vertu d'une grâce du président Joseph Kabila. Au total, 200 personnes ont bénéficié de cette grâce accordée par le président Kabila. Rejet du pourvoi en cassation de l'opposant sénégalais et ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Ses partisans assurent, Nathalie Barge, toutefois, qu'il reste dans la course à la présidentielle du 24 février.
La Cour suprême a rejeté un recours de Khalifa Sall qui contestait sa condamnation fin août à 5 ans de prison par la Cour d'appel de Dakar pour sa gestion de la capitale dont il était maire depuis 2009. La Cour rejette les pourvois formés par Khalifa Ababakar Sall qui sont irrecevables ou mal fondés, a déclaré le président de l'audience de la chambre criminelle, Amadou Baal. Devant le tribunal placé sous haute surveillance policière, des dizaines de manifestants sont venus soutenir l'ancien édile démis de ses fonctions par le président Macky Sall. La défense de Khalifa Sall a immédiatement annoncé son intention d'introduire un ultime recours. « Dès que la décision nous sera notifiée, nous allons introduire la procédure de rabat d'arrêt qui permet aux parties de contester un arrêt pris en cassation en cas d'erreur manifeste », a déclaré à la presse Maître Seydou Diagne.
Le ministre chinois des Affaires étrangères, Yang Yi, en tournée africaine, a relativisé les inquiétudes liées à la dette de l'Afrique à l'égard de la Chine à son arrivée ce jeudi en Éthiopie. Il se rendra ensuite en Gambie, au Sénégal et au Burkina Faso. Rappelons que la Chine a énormément investi ces dernières années dans des projets d'infrastructures en Afrique, dont de nombreux dirigeants voient en Pékin un meilleur partenaire commercial que les pays occidentaux. Louise Musikiyabo, ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, a officiellement pris ses fonctions ce jeudi à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. La nouvelle secrétaire générale de l'organisation a été investie pour 4 ans lors d'une cérémonie de passation à laquelle la presse n'était pas conviée, avec la sortante, la canadienne Michaëlle Jean, au siège parisien de l'OIF qui compte 88 États et gouvernements, soit près de 300 millions de francophones. En Afrique du Sud, le projet de l'ancien président Jacob Zuma d'enregistrer un album de chansons de lutte contre l'apartheid a suscité un tollé au sein de l'opposition qui dénonce un projet financé avec l'argent du contribuable. Jacob Zuma, contraint à la démission en 2018 à la suite de multiples scandales de corruption, s'illustre régulièrement lors de meetings politiques en chantant de sa voix à baryton ou en esquissant des pas de danse très assurés qui suscitent toujours l'enthousiasme de ses partisans. Un album qui sera enregistré en public en avril et qui sera donc disponible cette année. La police marocaine a annoncé le démantèlement dans la région de Tanger d'un réseau criminel impliqué dans l'organisation d'opérations d'émigration clandestine vers l'Espagne. Les investigations ont conduit à l'arrestation de 4 personnes, dont le propriétaire d'une maison dans laquelle se trouvaient 17 candidats, selon le communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le Maroc a par ailleurs stoppé 68 000 tentatives d'immigration clandestine et démantelé 122 réseaux criminels actifs entre janvier et fin septembre selon un bilan officiel. Plus de 2000 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée l'an dernier selon le HCR qui a appelé les pays européens à sortir de l'impasse. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Plus de 100 000 personnes ont traversé la Méditerranée pour gagner les côtes européennes en 2018, une baisse par rapport à 2017 où le HCR avait compté environ 170 000. Toujours selon le HCR, le premier pays d'origine des migrants est la Guinée, suivie du Maroc et du Mali. La voie principale de migration passait jusque-là par la Libye vers l'Italie, puis l'Espagne est devenue la première porte d'entrée. Plus de 2000 migrants sont morts ou portés disparus en 2018 contre environ 3000 l'année précédente. À ces chiffres, il faut ajouter les 6700 personnes enregistrées dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Céline Schmitt, porte-parole du HCR en France, a affirmé que la Méditerranée est la voie maritime la plus meurtrière au monde pour les réfugiés et les migrants. Elle a ajouté qu'en 2019, il est essentiel de mettre fin à des approches bateau par bateau. Elle plaide pour un mécanisme régional de débarquement. L'année 2018 a été aussi marquée par une crise entre pays européens autour de l'accueil de ces réfugiés. L'Italie et Malte ont fermé leurs portes aux nouveaux migrants.
Toujours concernant ce dossier, plusieurs maires de grandes villes italiennes refusent d'appliquer le décret loi anti-immigration du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, à commencer par le maire de Palerme qui a pris la tête d'une fronde contre le patron de l'extrême droite. Les maires parlent d'un texte inhumain. La principale mesure du texte abolit les permis de séjour humanitaires jusqu'à présent accordés aux personnes vulnérables, aux familles ou femmes seules avec enfants, victimes de traumatismes pendant leur périple vers l'Italie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le nouveau Congrès américain fait sa rentrée ce jeudi sous fond de tiraillement entre républicains et démocrates sur divers dossiers. Les précisions de John Lyndon.
Avec un nombre record de femmes et d'élus issus de minorités, le 116e Congrès américain a pris ses fonctions au Capitole. 435 nouveaux élus à la Chambre des représentants, contrôlés par les démocrates, et 100 membres du Sénat, contrôlés par les républicains, ont pris leurs fonctions ce jeudi, promettant d'œuvrer pour un Congrès rassembleur. La démocrate Nancy Pelosi retrouve à 78 ans le perchoir de la Chambre. Elle devient ainsi la troisième personnalité du pays, après le président Donald Trump et son vice-président Mike Pence. Les démocrates doivent présenter des mesures budgétaires temporaires pour débloquer les administrations fédérales partiellement paralysées depuis le 22 décembre. La Maison-Blanche a par avance rejeté ces projets qui n'incluent pas les 5 milliards de dollars réclamés par le président Trump pour financer un mur à la frontière avec le Mexique. L'impasse budgétaire risque donc de se prolonger. Ce bras de fer annonce de féroces batailles à venir entre démocrates et républicains.
Le nouveau chef du Pentagone, Patrick Shanahan, a rencontré ce matin le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, pour parler notamment de la Syrie, selon un responsable du ministère. Au Proche-Orient, justement, des affrontements entre djihadistes et rebelles se sont encore étendus dans le nord-ouest de la Syrie, faisant plus de 30 morts dans les deux camps. Au troisième jour des combats, a indiqué une ONG. Les deux formations sont à couteau tiré depuis deux ans et s'affrontent régulièrement pour prendre le contrôle de territoire. En Arabie Saoudite, le procureur général a requis la peine de mort contre 5 des 11 suspects accusés du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à l'ouverture de ce jeudi de leur procès devant une cour pénale de Riyad. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le reste du monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Banque africaine de développement envisage de lever 7,24 milliards de dollars en 2019 pour financer des projets et programmes dans les économies africaines. La BAD souhaite innover et diversifier sa gamme de produits afin de répondre à une demande croissante d'investissement et promouvoir une croissance durable et inclusive. L'institution financière continuera de promouvoir le développement des marchés des capitaux africains en émettant des titres de créances libellés en monnaie locale et de faciliter le financement de ces opérations en monnaie locale également, parallèlement à d'autres initiatives. Les prix mondiaux du cacao ont progressé de plus de 25% en 2018. Profitant d'un faible niveau des prix de la matière première au début de janvier 2018, les raffineurs se sont rués sur une production abondante de cacao, conduisant ainsi à faire remonter le niveau des cours. La saison 2018-2019 devrait s'achever sur un surplus de 96 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est prévue pour produire 2,12 millions de tonnes de cacao, tandis que le Ghana devrait faire rentrer une récolte de 957 000 tonnes et le Nigeria près de 250 000 tonnes, selon Ecofin. Terminons avec Apple qui a annoncé hier qu'il révisait en baisse ses prévisions de résultats pour le premier trimestre 2019, à cause notamment du ralentissement de la croissance en Chine et du renforcement du dollar. Son chiffre d'affaires au cours de cette période devrait ainsi tomber à 84 milliards de dollars au lieu de 91 milliards prévus.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eka, bonsoir à tous.
Les Comores attaquent la CAF au tribunal arbitral du sport.
Oui, Ben Amir Sadi, manager général des Koilakantes, a confirmé que la Fédération de football des Comores a décidé de saisir le TAS, je cite, pour faire valoir sa qualification à la CAN 2019, fin de citation. La CAF a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, mais ne l'a pas sanctionnée. Les Comores brandissent notamment l'article 92 des règlements qui veut que le pays d'accueil défaillant soit suspendu de la compétition. À plusieurs reprises, les responsables de la CAF ont indiqué qu'aucune sanction ne sera prononcée contre les Lions indomptables et que les Koilankantes devront arracher leur qualification sur le terrain contre le Cameroun en mars prochain à Yaoundé.
Coup dur pour Malengo et le TP Mazembe.
Oui, déjà victime d'une entorse à la cheville en fin d'année 2018, l'attaquant du TP Mazembe Ben Malengo commence 2019 à l'infirmerie. Cette fois, l'international congolais souffre d'une fracture au pied droit et son état nécessite un minimum de 3 à 6 semaines de soins avant de réévaluer la nécessité d'un autre traitement, d'après Jean-Michel Kazadi, médecin du club de Lubumbashi. Ben Malengo risque donc de rater les deux ou trois premières journées de la phase de groupe de la Ligue des Champions.
En Europe, Manchester City doit gagner ce soir pour rester dans la course au titre.
Le champion en titre doit battre l'actuel leader du championnat Liverpool, qui compte 7 points d'avance lors du choc de la 21e journée à 20h temps universel ce soir. Sinon, c'est fini pour le titre, estime l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola. Les deux défaites contre Crystal Palace 3-2 le 22 décembre et 4 jours plus tard à Leicester 2-1 ont coûté cher au classement à Manchester City 47 points. Tottenham 48 points avec un match en plus en a profité pour lui ravir la deuxième place.
NBA pour finir, Davis et Embiid affolent les compteurs.
Et 8, 34 points et 26 rebonds pour Anthony Davis, 42 points et 18 rebonds pour Joël Embiid. L'ailier de la Nouvelle-Orléans et le pivot camerounais de Philadelphie ont explosé les compteurs avec des statistiques ahurissantes. Davis détient désormais le record de rebonds de sa franchise 26 et a battu de 4 unités son record personnel. À Phoenix, Embiid s'est offert son 33e double-double en 37 matchs disputés cette saison. Il a assommé les Suns avec 30 points et 14 rebonds lors des deux premières périodes, devenant le premier joueur depuis Anton Jamison, alors joueur de Golden State en 2000, à rallier les vestiaires à la pause avec au moins 30 points et 10 rebonds.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, place à présent au dossier du jour et on commence avec le Mali où des affrontements intercommunautaires ont fait cette semaine au moins 37 morts à Kougonlon, près de Bankas dans le centre du pays. Une association accuse des chasseurs d'Onzo d'avoir tué des civils, Peul. Modibo Dembélé a joint Abdoulaziz Diallo, leader de l'association Tabital Poulakou.
C'est très très triste de voir que la mort des innocents continue. C'est triste, mais aussi en même temps révoltant. Parce qu'on n'a pas pu tirer les leçons de ce qui s'est passé au cours de cette année 2018, qui a été quand même une année totalement macabre. Si on dénombre le nombre de personnes tuées dans les cercles de Koro, dans les cercles de Djéné et dans les cercles de Moki et Gwanza. Donc c'est vraiment quelque chose de très très triste, des personnes innocentes qui sont tuées simplement parce qu'elles sont peules.
Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour mettre fin à toutes ces tueries?
Le gouvernement doit d'abord continuer ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire l'arrestation des coupables, parce que c'est l'impunité, à mon avis, qui est à la base de cette récidive. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas inquiétés. Donc c'est extrêmement important que le gouvernement qui a annoncé qu'ils vont commencer à faire des arrestations, donc que ces arrestations poursuivent, que ces personnes soient poursuivies au nom de la loi et condamnées, pour ceux qui méritent d'être condamnés, surtout toutes ces personnes qui ont du sang, des innocents sur les mains. La deuxième mesure importante, c'est de procéder au désarmement sans délai. D'abord au démantèlement de la milice d'Anassagou et de toutes les autres milices qui sont en train de timer la région et de procéder au désarmement, accentuer le processus de DDR qu'ils ont annoncé avec beaucoup de tapage, parce que le DDR, à mon avis, c'est une très très bonne chose, mais commencer déjà à démanteler les bases d'entraînement de Dozo, qui sont des sites très connus, la base d'entraînement de Dana Anassagou, il y en a quelques-unes au niveau du cercle de Koro de Bankas, mais aussi les bases de Mama Dembélé aussi, qui sont dans la zone de Djéné. Donc toutes ces bases d'Ozo, qui sont des bases illégales, donc ces bases-là, il faut les démanteler le plus vite possible et récupérer toutes les armes. C'est-à-dire que seul l'État doit disposer des armes. Donc la troisième chose, vraiment, il faut une justice correcte pour tout le monde. La quatrième chose, il faut que l'administration arrête son laxisme. Parce que quand on est laxiste et que les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les victimes à terme vont se convaincre que vous êtes ensemble et que vous êtes complices.
Pour une réaction à ces accusations, Modibo Dembélé a aussi recueilli la réaction de Mamadou Goudjinkile, président de l'association des Dogons, Anna Ambassagou.
Lorsque j'ai appris vraiment, c'est une perte pour la région de Mopti, c'est une perte pour le Mali. C'est les Maliens qui sont tués et je condamne fermement cette tuerie-là.
Que répondez-vous aux accusations lorsque des gens disent que ce sont des attaques qui ont été perpétrées par les Dogons ou bien les Bozos?
Je nie catégoriquement, les Dogons ne sont pas impliqués dans cette tuerie-là. Je condamne avec la dernière rigueur cet acte. Ceux qui ont dit que les Dogons sont impliqués parce que ces gens-là portaient la tenue d'Ozo, ce n'est pas les Dogons seulement qui portent la tenue d'Ozo. Je crois que dans le monde entier, ces tenues-là sont vendues même à Bamako, au marché. Si vous partez à côté de l'URTM, là, vous allez voir ces tenues. Si vous partez à Mopti, partout, il y a la tenue. Tous les bandits, les terroristes peuvent payer ces tenues pour tuer. Lorsque il y a eu problème de problème de Koufa, Koufa a tué ses propres parents. Il a tué les peuls. Tout le monde sait ça. Et il y a beaucoup qui ont perdu leurs parents.
Et selon vous maintenant, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour mettre un frein vraiment à cette violence intercommunautaire?
Le gouvernement a le droit de sécuriser son pays, sa population. C'est leur devoir le plus absolu.
Mamadou Gounjink, il est président de l'association des Dogons Anna Ambassagou.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Sénégal, 23 candidats à l'élection présidentielle ont décidé de se réunir autour d'un collectif pour rejeter la décision du Conseil constitutionnel et dénoncer ce qu'ils voient comme un coup de force du régime en place. Le Conseil constitutionnel a en effet invalidé pour des divers motifs 19 candidatures pour la présidentielle de février à Dakar. La correspondance de Seydina Abagay.
Non-conformité du numéro de la carte d'identité CEDEAO, doublon interne, non-conformité de région ou représentation diplomatique de vote, présence d'un parrain non inscrit sur le fichier général sont entre autres les motifs avancés par le Conseil constitutionnel pour expliquer l'ajournement de 19 candidats sur les 27 ayant déposé leur dossier. Tierno Alassane Sall est un des candidats recalés. Il estime que l'État a profité de la refonte du fichier pour fausser le jeu.
Le prétexte fallacieux de l'application des dispositions de la CEDEAO relative à la carte d'identité biométrique a permis à Macky Sall, avec la complicité de ses différents ministres de l'Intérieur, d'organiser une anarchie totale, tant dans la confection que la distribution des cartes d'électeurs. La liste est inépuisable des manquements graves délibérément organisés pour permettre au pouvoir de passer à une autre séquence fatidique à la démocratie sénégalaise.
De son côté, Abdoul Mbaye met en doute la sincérité des autorités en charge du processus électoral. Pour ce candidat recalé, le Conseil constitutionnel et le ministre de l'Intérieur ne sont pas fiables.
Double raison de se méfier, de ne pas accepter, de ne pas croire en la qualité des restitutions qui sont faites par le Conseil constitutionnel. Ils ont mis en place un dispositif de contrôle auquel ils ont associé l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, et la DAF, la Direction de l'automatisation des fichiers pour du ministère de l'Intérieur. Mais l'ADIE est un service rattaché à l'un des candidats, le président de la République. L'ADIE est un service dirigé par un militant APR de Grand Yoff. La DAF est en amont du système, on le retrouve en aval du système. Il y a manifestement un problème d'impartialité.
Contrairement à ses camarades de l'opposition, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, a passé le cap des parrainages malgré le fait qu'il soit en prison. Même si la Cour suprême a confirmé le verdict en appel, Mohamedou Lamine Barolo, membre de sa cellule de communication, affirme que rien ne peut empêcher la candidature de Khalifa Sall.
On fait focus sur l'effectivité de la candidature. Aujourd'hui, Khalifa Babacar Sall n'a plus d'obstacle devant lui pour la présidence. Parce qu'aujourd'hui, on a déposé devant le Conseil constitutionnel un dossier complet. Tout ce qui est demandé par le Conseil pour être candidat, Khalifa l'a déposé. La seule chose qui restait assez inconnue, c'était le parrainage, parce que c'était une boîte noire, on l'a franchi. Donc on n'a plus d'obstacle sur le côté judiciaire et rien ne peut être soulevé contre Khalifa Sall.
Du côté de la mouvance présidentielle, on estime qu'il faut se fier au jugement du Conseil constitutionnel. Aminata Touré, mandataire du président Macky Sall, affirme que le Conseil a traité tous les candidats de la même manière.
Moi, je pense qu'on a fait confiance au Conseil constitutionnel qui a établi son processus de vérification. Comme j'ai dit, nous avons eu des rejets, nous aussi, d'une certaine quantité, dû à plusieurs raisons. Ils nous ont notifié les différentes raisons. Comme j'ai dit, ça peut être un I que vous avez mis à la place de Sidi au lieu d'un Y, ça saute, parce que c'est ça le contrôle électronique.
Au Sénégal, une nouvelle loi votée en avril 2018 impose aux candidats à l'élection présidentielle un parrainage de 0,8% du corps électoral, soit 53 457 signatures. Sur ce nombre, 7 régions doivent être représentées par au moins 2000 parrains.
C'était la correspondance de Seyda Abagay à Dakar.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Suite à des décennies de guerre civile en Somalie, de nombreux jeunes sont restés sans compétences pour gagner leur vie, en particulier les femmes confrontées aux barrières culturelles. Récemment, grâce à un financement du gouvernement norvégien, le centre de développement technique Aile Bawiz a rouvert ses portes à Mogadiscio pour l'enseignement de nouvelles compétences professionnelles aux jeunes. Et c'est ici que Zoido Hussein s'entraîne pour devenir électricienne et espère ouvrir la voie à d'autres femmes dans un domaine dominé par les hommes. Reportage de Mohamed Chegnor, récit de Raïssa Girondin.
Zoido Hussein, 18 ans. Elle rêve de travailler comme électricienne pour une grande centrale qui illuminera la Somalie. Cette vision est bien éloignée des jours sombres de son passé, quand les conflits à Mogadiscio ont forcé sa famille à vivre dans les rues. Elle dit que cette formation a changé sa vie.
Si je n'avais pas rejoint ce centre, je serais toujours à la maison pour faire du travail domestique ou probablement mariée. Mais maintenant, j'apprends des compétences importantes comme l'installation électrique. Et c'est désormais ma vie.
Hussein utilise déjà ses compétences en dehors de l'école pour aider ses voisins en cas de perturbation électrique, tout en gagnant de l'argent. Elle est l'une des rares femmes de l'école, mais les responsables prédisent que cela changera bientôt, comme le souligne Badri Abdi Bariz.
Traditionnellement, les femmes de ce pays ne sont pas habituées à être des techniciennes. Mais vu la tendance actuelle à travers le monde de faire l'équilibre homme-femme sur le marché du travail, les femmes de ce pays commencent à avoir le courage d'occuper ce genre d'emploi. Au début, elles étaient peu nombreuses. Maintenant, nous avons 21 électriciennes et nous en attendons des centaines dans un avenir proche.
Hussein espère être une source d'inspiration pour toutes les femmes souhaitant se lancer dans la profession. Elle reconnaît être confrontée cependant à la stigmatisation dans une société où le rôle des femmes est largement limité à la vie domestique.
Les gens n'ont jamais vu une femme travailler dans ce domaine. Alors je suis souvent le centre de toutes les attentions, en particulier lorsque je travaille avec mes collègues masculins et que je répare ou j'installe des lignes électriques. Certains me regardent d'un œil positif, mais la majorité d'entre eux me découragent.
Les hommes continuent de dominer le domaine et ont le pouvoir d'influencer la plupart des décisions importantes, une réalité à laquelle les femmes sont confrontées. Mais cela ne décourage pas pour autant la jeune électricienne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À Washington, c'est l'heure de la rentrée parlementaire. Le nouveau Congrès prend ses fonctions au lendemain d'une réunion sans issue sur le shutdown. Pour un éclairage sur la situation, Raïssa Girondin joint René Lec, analyste politique.
Donald Trump utilise sa méthode favorite de négociation qui est de démarrer avec des extrêmes, d'être très offensif. Vous vous souvenez, on a eu cette attitude-là vis-à-vis de la Corée du Nord, vis-à-vis de la Chine, et c'est celle qu'il utilise avec les démocrates.
On assiste donc là à de dures négociations pour un éventuel compromis, mais quelle a été la proposition des démocrates?
De leur côté, les démocrates, eux, n'ont aucune intention de bouger, de faire bouger les lignes. Hier encore, Nancy Pelosi, qui est la patronne des démocrates, a dit qu'il est hors de question qu'il y ait le moindre dollar pour le mur. Par contre, les démocrates sont prêts à financer la protection des frontières. Donc il va y avoir peut-être un débat sémantique là-dedans qui permettra d'obtenir une sorte de compromis. Trump demande 5,6 milliards de dollars. Les démocrates proposent entre 1,3 et 1,5. Peut-être qu'il y aura un compromis autour de 2 milliards autour de la protection de la frontière. Ça peut prendre une semaine, ça peut en prendre deux, ça peut en prendre trois. On ne sait vraiment pas.
Les démocrates prennent la majorité à la Chambre des représentants en cette rentrée. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la fin de mandat de Donald Trump?
Écoutez, il y a d'abord une explosion du plafond de verre de ce congrès-là, le 116e congrès. Vous avez des nombres records, le nombre de femmes élues. Il y a la première indienne d'Amérique, comme on dit, première musulmane, deux plus jeunes femmes dans toute l'histoire du congrès. Il y a un nombre record d'Africains-Américains, donc de Noirs, de Latinos, d'homosexuels, etc. Donc c'est le congrès le plus divers dans l'histoire de l'Amérique. En général, la diversité est plutôt favorable aux démocrates et à un agenda assez libéral. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de clash avec le président de la République, et en particulier sur la question des enquêtes le concernant. Bon, mais je crois qu'il y a d'autres choses sur lesquelles ils peuvent trouver des compromis. Il y a pas mal d'espace de convergence sur les projets d'infrastructure, par exemple, les démocrates et les républicains, en particulier la ligne Donald Trump est très favorable à ce type de projet. Il y a déjà eu quelques progrès qui ont été faits sur la question de la réforme judiciaire qui a été adoptée il y a quelques jours. Donc, il y a quelques terrains sur lesquels je pense qu'ils pourront trouver des compromis, il me semble.
René Lec, analyste politique joint à Washington. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Justine Twist. À la présentation, Ekia Badou. On reste connecté sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour une actualité 24 heures sur 24. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Bienvenue à bord.